À prendre place, sachez que j'ai reçu différents pouvoirs. Jonathan Rodriguez est représenté par Anne-Marie Legras jusqu'à ce qu'il n'arrive. Jacques Fromm, représenté par... j'ai pas vu Anne-Marie Legras. Ah, jusqu'à l'arrivée de... d'Anne-Marie Legras. Donc elle a... Jacques Fromm, représenté par Abida Sharif, quand il partira. Christine Mazzi, représentée par Pascal Marniquet. Claude Maréchal, par Marie-Claire Bilbord. Nicole Lesage, par Rémi Grand. Aline Triolet, par Jean-Michel Lorca. Hélène Devilliers, par Joachim Verdier, qui n'est pas encore arrivé. Et Youri Philippe devra sûrement nous quitter et sera remplacé par Édouard Rabon, que je viens de voir arriver. Et je vous proposerai, puisque notre secrétaire n'est pas sûr de pouvoir rester toute la séance, de vous proposer la candidature d'Astrid Tussaud comme secrétaire de cette séance. Ça te rajeunit. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il y a encore des petits soucis de... On va peut-être laisser 2 minutes le temps de... C'est bon ? Chers collègues, avant de démarrer le conseil municipal, j'aimerais qu'on rende hommage à Marcel Mallette, qui est décédé le 15 août dernier à l'âge de 73 ans. Il a été conseiller municipal d'Épernay de 1977 à 1983 pendant le mandat de Jacques Perrin. Il était ouvrier du bois sur le plan professionnel. Il a fait toute sa carrière professionnelle à l'usine de Magenta. Il avait des responsabilités syndicales, à la fois la CGT et politique, comme secrétaire général de la section du Parti communiste français d'Épernay, puis secrétaire de la Fédération de la Marne du Parti communiste français. Il était, c'était un personnage attachant, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui était féru d'histoire locale et qui aimait partager ses connaissances. Il le faisait notamment depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux où il animait toute une série de débats sur l'évolution d'Épernay au fil de l'histoire. Et c'est donc une personnalité marquante qui nous a quittés. J'aimerais, si vous le voulez bien, que nous respections 1 minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Alors, tous les élus ne sont pas arrivés, mais on va quand même commencer l'ordre du jour de notre conseil. Certains nous rejoignent à l'instant. Donc, nous avons désigné notre secrétaire de séance. Le point suivant concerne... communication des décisions de justice et le rapport numéro 2. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, des explications à demander sur les décisions de justice mentionnées dans le rapport en votre possession ? Pas de commentaires. Je pense que c'est clair, hein, l'exposé des... Oui ?
Oui, je voulais savoir simplement, lorsque la salle est
louée, y a-t-il un inventaire de fait initialement et puis après, a posteriori ?
Alors, aujourd'hui, oui, il y a non seulement un inventaire, mais également une assurance qui est exigée de la part de tout utilisateur des salles municipales, parce que, encore une fois, un dégât peut se produire ou intentionnellement ou le plus souvent malencontreusement, et il faut impérativement que, sur ces points, nous soyons couverts. La difficulté dans le dossier concernant l'association mentionnée en bas du rapport, c'est que le tribunal a considéré qu'on n'avait pas apporté la preuve que c'était l'utilisateur en question qui avait endommagé la plateforme pour les personnes à mobilité réduite. Il aurait fallu effectivement faire constater, mais c'est lourd, parce que faire constater par huissier avant que la plateforme fonctionnait, après qu'elle ne fonctionnait pas, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on pense en tout cas, c'est que étant donné qu'il y avait énormément de monde ce jour-là dans la salle, probablement des enfants ont joué avec cette plateforme, l'ont détériorée sans chercher à le faire. Simplement, on n'a pas été en mesure de prouver que c'était cette association qui l'avait détériorée. Et de ce fait, en l'absence de preuves formelles, le tribunal de grande instance nous a débouté. Donc évidemment, sur des questions aussi sensibles que celle-ci, lorsqu'on a affaire à un monte-personnes à mobilité réduite, c'est des équipements qui sont sensibles, qui doivent être manipulés avec précaution. On fait en sorte maintenant de s'assurer systématiquement, de manière contradictoire, avant de prêter la salle, que le monte-charge fonctionne. Comme ça, s'il ne fonctionne plus après la manifestation, on peut effectivement déterminer que c'est pendant le temps d'utilisation de l'association qu'il a été détérioré. C'est toujours très délicat parce qu'on ne veut pas non plus accabler les utilisateurs. Donc sachez qu'aujourd'hui, on est couvert systématiquement. Alors ça peut paraître un peu formel, mais systématiquement, on demande à tout utilisateur d'une salle municipale de nous produire un certificat d'assurance, ne serait-ce que pour une soirée. Ça ne coûte pas très cher, hein, en général, mais ça permet surtout, en cas de dégâts, de pouvoir obtenir réparation. Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au rapport suivant concernant la provision pour risques juridiques. En application de la réglementation en vigueur, je vous invite à constituer une provision à hauteur de 1 500 € pour couvrir les risques juridiques pouvant résulter du dossier contentieux mentionné dans le rapport en votre possession. On reviendra sur ce rapport puisque tout à l'heure il sera proposé le retrait du rapport litigieux. Vous savez qu'on a aujourd'hui l'obligation, à chaque fois qu'une action en justice est engagée, de provisionner. Bon, ça joue rarement évidemment, mais c'est un formalisme qui est désormais imposé aux collectivités, et on y reviendra, si vous le voulez bien, sur le fond tout à l'heure. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous propose de passer au rapport 2.2 et 2.3 concernant les créances éteintes et les admissions en non-valeur. Je vous propose d'adopter les deux délibérations visant d'une part à éteindre, à la demande du receveur municipal, des créances qu'il n'a pas pu recouvrer pour un montant de 14 912,24 €, d'autre part à admettre en non-valeur les créances dont le recouvrement s'avère infructueux à l'issue des poursuites contentieuses pour un montant de 61 277,21 €. Les créances éteintes, contrairement aux admissions en non-valeur, s'imposent à la collectivité dans le cadre d'une procédure de surendettement lorsque plus aucune action de recouvrement n'est possible à la suite d'une décision de justice. Les admissions en non-valeur correspondent à des produits de gestion courante. Ça peut être des prestations de services, des cantines, des centres aérés, des garderies, des taxes de séjour et des revenus des immeubles, et concernent les années 2008 à 2018, ce qui nous amène quand même à nuancer le montant des sommes, puisque c'est sur 10 ans. Hein, donc, ce n'est pas 61 000 € par an, c'est en l'occurrence une moyenne, on va dire, de 6 000 € par an que nous ne parvenons pas à recouvrir au titre des admissions en non-valeur. Avez-vous des questions sur ce point? C'est un rapport assez classique. Hein. Pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport est adopté. Nous passons ensuite au rapport concernant la décision modificative numéro 3 de l'exercice 2018. Je vous propose, mes chers collègues, d'approuver les virements suivants figurant dans le rapport qui vous a été transmis. D'un côté, nous avons au niveau du budget ville le remboursement par le CCAS des fluides de 2015 à 2017 pour les structures de la petite enfance dans les locaux de la ville. Il s'agit de la maison pour tous et de la ferme de l'hôpital. Cette dépense du CCAS est compensée par une augmentation de la subvention de la ville. S'agissant du budget camping, il s'agit de régulariser des écritures d'ordre de l'actif du camping. Elles sont équilibrées entre elles et sans flux de trésorerie. Je vous propose d'augmenter aussi le montant de la subvention de fonctionnement du CCAS de 28 300 €. Elle sera donc de 3 179 300 €. Y a-t-il des questions sur ce point? Pas de questions. Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 2.5, la taxe de séjour. Et je passe la parole à Benoît Moitier.
Oui, merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'adopter les nouveaux tarifs de taxe de séjour qui intègrent notamment donc l'application d'une tarification au pourcentage pour les hébergements non classés, exception faite de notre camping, et puis l'obligation pour les plateformes en ligne de percevoir la taxe à partir du 1er janvier 2019, tout cela étant en lien avec la loi de finances rectificative pour 2017.
On peut indiquer qu'une des nouveautés, c'est notamment les logements...
Oui, tout à fait. Ce qui est faussement appelé les logements Airbnb, hein, puisque, oui, en l'occurrence,
il y a d'autres plateformes
que celle-ci, mais C'est la rançon du succès. En l'occurrence, l'idée, c'est effectivement que de créer une tarification pour cette catégorie qui jusque-là échappait au dispositif. En l'occurrence, ça va dans le sens d'une plus grande équité, si j'ose dire. On ne peut pas parler d'égalité, mais d'une plus grande équité entre les différents modes d'hébergement.
Y a-t-il des questions sur ce point ? Madame Perrin. Les identifier ?
Alors, il y a des dispositifs qui vont obliger les hébergeurs à se déclarer. Et d'ailleurs, comme cela existe pour les hôteliers, les gîtes ou les chambres d'hôtes ou même les campings, de toute façon, la taxe de séjour n'est perçue que sur du déclaratif. En tout cas, c'est le choix qui a été fait à Épernay. Donc, de la même manière, pour tous ceux qui rentrent dans cette nouvelle typologie, on va dire, d'hébergement, eh bien là, on aura du déclaratif.
Alors pour les contacter, ben on va sur les sites et puis on repère, on identifie et puis on leur écrit pour leur dire, leur demander de bien vouloir déclarer leur activité. Alors, en règle générale, la plupart le font. Il y en a probablement qu'ils ne le feront pas, mais on n'a pas de moyens d'investigation certains à 100%. Pas d'autres questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec le rapport 2.6. Mes chers collègues, divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subventions auxquelles je vous propose de répondre favorablement en attribuant les sommes énumérées dans le rapport en votre possession. Nous avons donc toute une série de subventions qui touchent différents domaines, comme vous pouvez le constater. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? Pas de questions. Avis contraire. Abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2.7. Catherine Crozat.
Merci, Monsieur le maire. Je vous propose d'acquérir auprès de Pluriel Novilia 2128 actions au prix de 0,31 € l'unité, soit un total de 659,68 €, ce qui permettra à la ville, dans le cadre de la fusion qui est intervenue entre Maison Coopérative Champagne-Ardenne et Pluriel Home Expert, et compte tenu de la parité fixée à 2133 actions de Pluriel Home Expert contre une action MCCA, de maintenir sa représentation au sein du conseil d'administration. Il est à rappeler que la ville d'Épernay détient à ce jour 5 actions de Pluriel Home Expert. Aussi, je vous prie de bien vouloir accepter la délibération telle qu'elle vous est présentée.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Je passe au rapport numéro 2.8, Jacques Fromm.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, suite à la dépénalisation du stationnement, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, le stationnement relève maintenant de l'occupation du domaine public et donne lieu au paiement du forfait post-stationnement fixé à 16,50 € à Épernay. Les recettes du forfait post-stationnement sont perçues par la commune. Je vous propose d'affecter les recettes issues des forfaits de post-stationnement perçues par la commune au financement de nos opérations de voirie visant l'amélioration de la circulation routière. Je vous propose également, par voie de conséquence, d'autoriser la signature de la convention entre la ville qui institue la redevance de stationnement et la communauté d'agglomération, compétente en matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt communautaire afin que les recettes du FPS soient intégralement conservées par la commune.
Le fait que la commune conserve l'intégralité, c'est tout simplement lié au fait que c'est elle qui a l'intégralité des charges correspondant au service. Donc c'est un rapport qui passera et au conseil municipal et au prochain conseil communautaire la semaine prochaine de mémoire. Y a-t-il des questions sur ce rapport, Monsieur Angers ?
Oui, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues, moi je voterai contre cette délibération dans le sens où ce n'est pas l'orientation que j'aurais envisagée pour ces crédits. Je crois que ces crédits, dans le meilleur des cas, doivent s'élever à 160 et quelques mille euros pour l'année, d'après ce qui nous a été rapporté.
165 000.
Oui, 165 000, donc qui nous a été rapporté en commission. Moi, je pense que j'ai lu vos déclarations au lendemain de la démission du ministre Hulot. Il fallait faire un pas vers l'environnement. Vous avez demandé à ce que nous changions radicalement notre façon d'être, notre façon de vivre, et que nous ne sommes pas là que pour faire du greenwashing. Je lis encore votre compte Facebook aujourd'hui. Nous sommes la dernière génération qui puisse faire quelque chose. Donc, faisons quelque chose. Faisons quelque chose, c'est pas remettre quelques crédits dans la voirie municipale, 165 000 euros sur le budget de la ville, c'est epsilon. C'est pas remettre des crédits pour faire venir encore plus de véhicules dans la ville. Moi, j'aurais affecté ces crédits-là à soit effectivement le transport public, donc la convention avec la communauté d'agglomération avait tout son sens, et en disant voilà, on porte avec la communauté d'agglomération le fait de pouvoir encore privilégier et favoriser le développement du transport public dans cette ville, ou alors, mais peut-être est là votre intention, tellement il y a du chemin à faire dans ce domaine, de faire en sorte que la circulation douce dans cette ville soit améliorée. Moi, je rappelle, je fais du vélo tous les dimanches matins, les difficultés incommensurables qu'a le cycliste sparnassien pour rejoindre ne serait-ce que la véloroute à 3 km. Donc, je pense qu'il y a des affectations qui devraient être envisagées pour ces crédits-là. Le plus simple aurait été effectivement de valider cette convention avec la communauté d'agglomération et puis significativement s'engager vers le transport public. Moi, je ne vois pas aujourd'hui, je dirais, de destination vertueuse à ces crédits-là.
Quand Jacques parlait tout à l'heure de sécurité routière, la sécurité routière inclut tout ce qui est piste cyclable et bande cyclable, dans mon esprit. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de difficultés dans certains secteurs pour faire des jonctions de pistes cyclables ou de bandes cyclables. Il faut qu'on s'améliore sur le sujet. Il faut qu'on arrive à convaincre les particuliers qui sont encore très réticents à l'usage du vélo et qui considèrent ça comme une contrainte, surtout lorsqu'elle vient en substitution de bandes de stationnement, de changer d'attitude sur le sujet. En revanche, s'agissant du transport public, il va de soi que les sommes collectées ne représenteraient qu'une toute petite partie de la compensation du coût des transports publics. Je connais votre thèse, et vous l'avez développée, et elle a sa logique, je ne la conteste pas, à savoir que votre vision du transport public et du développement durable vous pousse à privilégier la gratuité du transport public. Assez peu de collectivités l'ont fait aujourd'hui, et des collectivités, je me souviens avoir lu il y a 15 jours, 3 semaines, dans les Échos, me semble-t-il, un plaidoyer de l'adjoint en charge de la mairie de Paris qui expliquait que ce serait une très grosse erreur de passer la gratuité du transport public, font que les débats sont sur le sujet intéressants, mais aussi très, très contradictoires, avec des visions des choses qui sont différentes. Et on ne peut pas pour autant considérer qu'il y a ceux qui veulent protéger l'environnement et ceux qui ne le veulent pas. En fait, il y a différentes manières de le faire. Et c'est la direction générale de la politique qui me semble à privilégier, sachant que c'est un outil, la gratuité du transport public, qui coûte excessivement cher. Je crois que pour Paris, ce serait l'équivalent d'1,8 milliard ou 2 milliards, si ce n'est pas plus que ça, pour compenser la gratuité, ce qui serait évidemment à compenser au niveau des impôts, de l'imposition des ménages. Donc on a une contradiction à gérer entre, d'un côté, transférer sur les citoyens une charge nouvelle, si on passait au transport gratuit, parce qu'évidemment, les bus, il y en a toujours autant. Les chauffeurs de bus, il faudra les payer. Le carburant, il faudra le payer. Il n'y aura plus de rentrée d'argent côté ticket de transport. Et ce sera donc l'impôt qui paiera ça. Maintenant, encore une fois, il y a des villes de toute sensibilité qui ont choisi cette option. D'autres, la grande majorité, ne l'ont pas fait, ce qui ne veut pas dire que les uns ont raison et les autres ont tort. Mais il y a des débats sur le sujet. Et je pense qu'on sera amené à en rediscuter dans quelques années, parce que les choses peuvent évoluer très vite. Maintenant, s'agissant de votre vision, mais ça, on a eu moult débats sur le sujet, notre intention n'est pas de livrer la ville à la voiture de manière systématique. Quand on regarde depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, la ville a vu la place de la voiture régresser, certes modestement, mais régresser néanmoins. Et en tout état de cause, on fait en sorte de privilégier, et les constructeurs le feront de plus en plus, et les pouvoirs publics également, privilégier la voiture propre qui, petit à petit, va se substituer à la voiture à moteur thermique. Alors, j'ai bien conscience que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Je vois aujourd'hui, quand je constate aujourd'hui la manière dont certains pays, je pense à la Norvège, avec son style, et la Chine avec son style qui est très différent, on se rend compte qu'aujourd'hui, ces pays misent avec beaucoup plus de force que le nôtre sur la voiture électrique. Je crois qu'en Norvège, on doit approcher les 40% de véhicules électriques. En Chine, en 2 ans de temps, on va passer à 20% parce que là-bas, c'est beaucoup plus directif. Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez acheter une voiture, c'est forcément une voiture électrique dans une proportion de 1 pour 5. Est-ce qu'il faut pas passer, sans faire de jeu de mots, la vitesse supérieure de notre pays pour inciter davantage, sans que ce soit perçu comme quelque chose de punitif, l'introduction de la voiture propre et de nouveaux comportements dans nos villes, sans aucun doute. Mais là, on ne parle que de la collecte des produits du stationnement, et il semble normal que cette collecte dédommage la collectivité qui assure le service en question. Monsieur,
simplement, je veux vous donner le nom d'une ville dans la Marne qui a les transports gratuits, Vitry-le-François. Le transport est gratuit complètement.
Oui, mais encore une fois, c'est un choix politique qui est fait, qui a un coût. Il ne faut pas, surtout pas penser, je pense que ce n'est pas votre cas, qu'on peut comme ça, en claquant des doigts, faire le transport gratuit. Ça signifie très clairement que tous les contribuables de Vitry-le-François, même ceux qui ne prennent pas le bus, payent dans leurs impôts le service des bus. C'est un point de vue qui se respecte. Ce n'est pas le nôtre aujourd'hui. Peut-être que les choses évolueront dans les années qui viennent. Je pense qu'on mène bien d'autres actions que la ville de Vitry-le-François ne mène pas de son côté. S'il n'y a pas d'autres interventions... Oui, monsieur Richard.
Oui, juste préciser quand même par rapport à votre intervention, parce que vous mettez en avant le coût pour le contribuable. Si on mettait le ticket gratuit, simplement, il serait intéressant de connaître la part dans la recette que représentent les... Le ticketing des bus, en règle générale, d'après ce que j'ai lu, et y compris pour la dernière grande ville en date, là, c'est Dunkerque, qui met en place le transport gratuit, ça représente entre 14 et 18% la part de recettes dans le budget bus. Donc c'est déjà, d'une manière ou d'une autre, bien évidemment, les contribuables sont déjà sollicités. C'est normal. Bien. C'est pas, à mon avis, ça ne doit pas être l'argument épouvantail. Le deuxième point sur qui m'interroge dans votre intervention, comme à chaque fois d'ailleurs, c'est l'impact de la circulation et concernant la qualité de l'air. Qu'on le veuille ou non, à Épernay, et malgré vos dénégations, il y a un grave problème de pollution qui a été répertorié, c'est pas moi, les rapports de l'ATMO, etc., qui a été répertorié sur certaines voies. Je termine, vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien évidemment, c'est pas le problème. Sur certaines voies, que ce soit, il y a 5-6 voies pour l'essentiel, l'avenue Langerès, la rue Bas-Saint-Laurent, la rue Édouard Vaillant, etc., qui sont affectées par ce problème de pollution. Voilà. Et donc, aller dans ce sens, et c'est en fait notre propos. Alors, vous dites, il y a une volonté. Oui, mais ce que l'on constate, c'est chez vous d'ailleurs, et chez les gens au niveau du gouvernement, quelque part, c'est une absence de volonté politique de faire les pas nécessaires pour aller vers une amélioration de la situation. Voilà. C'était les observations par rapport à votre propos.
Alors, merci. Je voudrais revenir sur vos propos quand vous dites qu'il y a de graves atteintes à la qualité de l'air à Épernay. C'est faux. Qu'il y ait de temps à autre des épisodes de pollution où l'air est moins bon, il n'y a pas de contestation sur ce point. Mais Jonathan va pouvoir vous donner quelques précisions parce qu'il connaît très bien le sujet. Mais ne laissons pas fuiter ce genre de propos, d'abord parce que ça inquiète inutilement les gens et parce que la qualité de l'air à Épernay n'a strictement rien à voir avec ce qu'il y a dans les grandes capitales européennes. Rien à voir. Je peux vous garantir que la pollution qui se dégage aux alentours du périphérique à Paris, à côté, c'est rien. Ça n'a pas de comparaison. Donc n'utilisons pas le terme de grave qu'il y ait de temps en temps. Quand on a des temps propices à l'effet de serre, c'est-à-dire quand il fait très chaud, qu'il n'y a pas de vent, quand il fait au contraire très froid parfois, généralement un climat anticyclonique, dans des périodes hivernales très froides ou au contraire très chaudes, on en a vécu, qu'il y ait des difficultés, que l'air soit moins, de moindre qualité, personne ne le conteste. Mais parler de grave pollution de l'air, c'est faux, factuellement parlant, et ça n'a rien à voir avec ce que vivent des dizaines de millions de Français dans des grandes agglomérations qui ont un air incomparablement plus pollué. Jonathan.
Oui.
Non, c'est pas le déni, mais il faut utiliser les bons mots.
Le rapport ATMO, on l'a vu ensemble, Donc ce n'est pas nous, ce n'est pas vous, c'est Atmo, une association indépendante, qui a certifié que l'air, la qualité de l'air à Épernay est bonne. Ce n'est pas moi qui le dis, j'ai repris, elle n'a pas dit très bonne, elle a dit bonne, c'est le maximum qu'il y a. Puisqu'il y a un axe routier qui a dépassé la norme de 40 microgrammes, c'est 48, donc on a passé à 48, donc c'est 40, c'est l'avenue Foch. On l'avait dit, on ne l'avait pas caché. Donc, c'est arrivé une ou deux fois ou trois fois dans l'année. Ça dépend des années, vous me direz, il y a plus des années qui sont moins propices que d'autres. Mais c'est la seule remarque qui a été faite, et la qualité de l'air à Épernay est très bonne. D'ailleurs, preuve en est, on n'est pas couvert, contrairement à d'autres villes comme Reims, ou comme des grandes villes comme Metz, etc., par un plan de protection de l'atmosphère. C'est ce qui définit une ville qui est attaquée au niveau de sa qualité de l'air. Après, on est en ville, on n'est pas au sommet du Mont-Blanc. Évidemment, il y a l'activité humaine, donc forcément, toute source de humaine crée de la pollution. Donc évidemment, il y aura des pollutions, mais qui ne sont pas en dehors des règles communautaires, qui sont largement en deçà de ces normes communautaires. C'est la référence qu'il faut retenir, c'est la référence d'Atmo qui certifie que la qualité de l'air à Épernay est bonne. Et pour donner un petit point sur les transports gratuits, c'est votre leitmotiv, pourquoi pas, vous dites que le critère financier n'est pas le seul critère à retenir pour ça. Donc il y a le critère de l'impact environnemental. Je serais curieux de voir vos chiffres sur le report des automobilistes sur les transports gratuits, parce que les villes qui ont mis ça en place ont constaté une légère augmentation des passagers dans les bus ou dans les transports en commun, mais ce ne sont pas des automobilistes, ce sont des gens qui allaient à pied à leur travail ou à leur lieu de rendez-vous. Ce sont des marcheurs, sans référence au président de la République, qui prennent maintenant les transports en commun. Donc voilà les chiffres que j'ai vus dans les villes qui sont passées. Alors très bien, après ils affichent un transport en commun beaucoup plus emprunté, pourquoi pas, mais ce ne sont pas des gens qui prennent les voitures, parce que si les gens prennent les voitures, c'est qu'ils sont déjà à des distances plus longues que peut faire à pied. Après, s'il faut qu'on modifie l'usage de l'automobile, c'est clair, il faut qu'on arrive non pas à supprimer les voitures, parce que tout à chacun, on a besoin de la voiture à un temps donné. Il faut qu'on l'utilise moins ou de manière différenciée. Et c'est pour ça qu'on est en train de recruter en collaboration avec l'agglo d'Épernay, avec les communes d'Ailly et de Dormans, une personne qui sera chargée de promouvoir la mobilité durable. Le recrutement est en cours et derrière, les actions doivent en découler.
Oui, pour rebondir sur ce que disait à l'instant Jonathan, les seules politiques, c'est démontré à l'échelle internationale, qui ont véritablement changé la donne au niveau de la pollution de l'air, notamment à travers l'usage du transport public, c'est quand on a d'un côté sanctionné les véhicules, exemple Londres avec le péage urbain, que dans le même temps on a multiplié les bus, mais les bus sont payants, et là de toute façon, en interdisant les voitures d'entrée dans les villes, forcément vous enclenchez un transfert massif sur le transport public, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais effectivement, et je crois que ça a ressorti des articles, notamment de l'adjoint au maire de Paris sur le sujet, qui, j'allais dire, et en plus, je ne sais pas s'il n'est pas écologiste d'ailleurs, qui en plus disait que ce serait une erreur à Paris, parce qu'en fait, on se rend compte qu'effectivement, quand on passe à la gratuité, ce sont surtout les piétons qui montent dans les bus, mais ce n'est pas les gens qui abandonnent la voiture pour autant et qui vont dans les bus. Et je pense que, alors, il n'y a encore aucune ville qui est passée sur la notion de péage urbain, c'est le cas dans d'autres pays d'Europe. Ça semble donner des résultats. Est-ce que c'est une piste qu'il faut privilégier dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations? Sûrement. À l'échelle d'une ville comme nous, ça paraît trop compliqué, parce que les investissements en termes de péage urbain sont excessivement coûteux. Mais on va essayer de retrouver ces articles qu'on vous communiquera. Et ce que je vous propose pour mettre fin, je l'espère, à la polémique, c'est qu'on fasse venir au prochain conseil municipal la représentante d'Atmo, qui viendra nous expliquer la qualité de l'air à Épernay, et on verra si effectivement on est gravement pollué ou pas.
Oui. Monsieur le maire, si vous me permettez, et pour ajouter, très bonne initiative, mon sens, mais si vous permettez, il faudrait également étudier le rapport de l'OMS sur je ne sais plus combien de milliers de villes dans le monde, dont quelques centaines en France, dont Épernay est cité dans le rapport de l'OMS concernant la qualité de l'air. Voilà, c'est tout. Alors donc, je propose qu'on le mette dans le pot commun de la discussion qu'on pourrait avoir.
Bon, on aura ce débat. Merci. Au conseil municipal en présence d'un expert ou d'une experte en l'occurrence. Sur ce rapport, donc, il y avait un vote contre, hein, monsieur Angers. Vous êtes seul à voter contre? Trois votes contre. Abstention, le rapport est adopté. Nous passons aux délibérations concernant les ressources humaines. Ce sont les rapports 2.9 à 2.12. Je vous propose, mes chers collègues, d'examiner de façon groupée ces quatre délibérations. La 2.9 concerne le renouvellement de la mise à disposition partielle de l'agent d'Épernay en charge de la régulation des animaux nuisibles à la ville de Pierry. Je rappelle que c'était antérieurement un agent de la ville de Pierry qui était mis à notre disposition. La charge de travail étant plus importante à Épernay qu'à Pierry, on a recruté cet agent et il est maintenant mis partiellement à disposition de la ville de Pierry. Donc on renouvelle simplement cette mise à disposition. Le point 2.10, il s'agit de recruter un agent de médiation dans le cadre des nouveaux emplois aidés. Le point 2.11, il s'agit de modifier le tableau des effectifs afin de permettre le recrutement d'un chargé de projet pour le dossier cœur de ville qui, compte tenu du caractère ponctuel de ses missions dévolues, sera pourvu par voie contractuelle. C'est un poste qui est largement financé par l'État, la Caisse des dépôts et un certain nombre de partenaires. Le remplacement de la responsable des affaires immobilières et foncières qui sera également chargée des dossiers immobiliers, fonciers et locatifs de la communauté d'agglomération. Et le recrutement du responsable accueil billetterie boutique dans la perspective de la réouverture du musée sur la base du grade de rédacteur, puisque, effectivement, on commence à l'ouverture du musée, même si les travaux sont loin d'être terminés, commence à se profiler, et qu'il nous faut commencer à recruter l'équipe qui, petit à petit, prendra place dans ce musée. Dernier point, le rapport 2.12, qui consiste à adhérer au groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification de l'an, afin, par cet intermédiaire, de recruter un alternant au sein du service communication pour occuper des fonctions de chargé de mission, chargé de communication junior et l'accompagner vers l'obtention d'un diplôme de niveau 2. En effet, actuellement, on ne peut pas, en tant que collectivité, recruter en alternance, ce qui est dommage parce qu'il y a beaucoup, on essaie de pousser beaucoup de jeunes vers l'alternance, mais ils ont beaucoup de mal à trouver des stages dans les collectivités. Donc, pour pouvoir recruter une personne au service communication, mais ce serait pareil si on tentait l'alternance sur d'autres emplois dans la collectivité. Il faut adhérer à un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. En l'occurrence, on s'appuie sur celui de Lan qui a cette expérience et ce qui nous permettra de prendre en alternance un agent. Je souhaite, en ce qui me concerne, qu'on développe l'alternance parce que c'est une piste qu'il faut absolument privilégier. Dans d'autres domaines, il y a un tas de métiers dans la collectivité et maintenant qu'on a trouvé cette solution, j'espère qu'elle sera suffisamment convaincante pour qu'on puisse faire œuvre aussi de formation à travers ces formations en alternance. Des questions sur ces rapports, Monsieur Angers ?
Oui, moi j'ai une remarque sur le rapport 2.12 là, sur le recrutement d'un alternant, non pas sur les modalités de recrutement et sur le parcours de formation, effectivement, le passage par les voies d'apprentissage sont des passages qui peuvent, dans certains domaines, donner des résultats et pourquoi pas s'en priver et puis avoir des parcours atypiques, c'est très bien. Non, mon propos, moi, il est un petit peu autre, dans la mesure où je me souviens, ici même, il y a 2 ou 3 ans, lors de l'analyse du budget, j'avais fait remarquer le poids que prenait la communication dans le budget municipal. C'était significatif, bien plus important que d'autres postes. À un an et demi de la fin de mandat, moi je trouve un peu fort de café qu'on vienne encore faire croître les effectifs du service communication. Je voudrais bien être rassuré sur le fait que la communication telle qu'elle est envisagée n'est pas une communication politique, mais qu'elle restera bien une communication institutionnelle au bénéfice de la collectivité. Donc voilà, je suis un petit peu étonné, je dirais, de voir encore grossir les rangs d'un service communication. On sait votre, je dirais, accointance par rapport au fait de communiquer. Tout à l'heure, on évoquait le développement durable, et ça, on ne peut pas nier que vous êtes un très, très grand communicant en la matière. Nous, on l'a dit, on préférerait des faits. Je ne voudrais pas que, également sur ce terrain de ce recrutement, je dirais, les faits viennent me donner raison dans quelques temps.
Alors, je peux vous rassurer sur le sujet. On est en l'occurrence dans une logique de formation et d'insertion d'un étudiant en alternance qui aspire à devenir chargé de communication junior et qui va donc, on va l'accompagner vers l'obtention d'un diplôme de niveau 2, c'est-à-dire un bac plus 3. Vous pensez bien que c'est un agent qui débute dans le métier, qui a fait déjà des études supérieures, mais qui souhaite rentrer dans une école de communication et qui cherchait, en l'occurrence, un stage. Il s'est trouvé qu'on avait quelques missions ponctuelles à lui donner et que j'ai personnellement insisté pour qu'effectivement on développe ce type de formation dans nos équipes, parce que c'est utile pour ces jeunes qui cherchent souvent, et on en rencontre souvent malheureusement, qui viennent nous voir. Ils ne cherchent pas un boulot, ils cherchent en fait une entreprise pour les accueillir en alternance. Et certains d'entre eux, c'est tout à fait regrettable, ils perdent parfois une année ou échouent ou se détournent de leurs études parce qu'ils n'ont pas trouvé une entreprise pour les accueillir pour leur temps d'alternance. C'est quelques... ça doit durer, je ne sais plus quelle est la durée, ça doit être sur une année universitaire, et c'est à peu près un temps partagé à 40% chez l'employeur et à 60% dans les études. Donc si vous estimez que ça, c'est de nature à peser sur le cours des élections municipales prochaines, où vous prêtez énormément d'importance à cette personne qui, j'allais dire, ne connaît absolument pas la question de la communication politique. Je ne sais même pas quelle est sa sensibilité politique personnelle. Elle vient pour apprendre un métier, découvrir un métier. Et je pense que le faire dans la communication, dans le service communication de la ville, qui a plutôt bonne réputation, c'est plutôt une chance qu'on lui donne. Donc je peux vous garantir qu'en tout cas, elle ne fera pas de distribution de tracts, si c'est ça qui vous inquiète. Oui.
Merci. Concernant les emplois aidés, l'an passé, à pareille époque, j'avais posé la question à laquelle il nous avait été répondu sur le nombre d'emplois aidés au sein de la ville, du personnel de la ville. Je crois que c'était 11 ou 12. Voilà. Et aujourd'hui, où en sommes-nous ?
17. On a 10 emplois aidés, 8 relèvent du dispositif Parcours Emploi Compétences.
C'est le nouveau dispositif, ça ?
Oui. Un est encore en emploi d'avenir, un est en contrat d'accompagnement dans l'emploi et 7 sont en service civique. Donc toute forme d'emploi aidé, hein, ils ont pas les mêmes statuts, mais ça représente un total de 17 au total. Et c'est fluctuant parfois sur les emplois aidés. On essaie toujours d'avoir le même volant d'emploi civique parce que là aussi on considère que c'est une forme, ça fonctionne bien d'une part, et puis que c'est aussi une manière de mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui, au sortir de leurs études, ont parfois du mal à trouver leur vocation, et le fait de venir occuper un service civique chez nous, souvent d'ailleurs ils nous quittent régulièrement parce qu'ils ont trouvé un emploi, une solution professionnelle qui leur plaît. Sur ces 4 rapports, pas d'opposition, pas d'abstention, ces rapports sont adoptés. Nous passons au rapport 3.1, Magali Carbonel.
Merci Monsieur le Maire, chers collègues. Lors du conseil municipal du 20 septembre 2017, la délibération relative aux frais de scolarité des élèves scolarisés dans les écoles d'Épernay fixait la participation des communes pour l'année 2016-2017 à 998 euros pour un élève scolarisé en élémentaire. Or, il s'avère que nous avons aperçu une erreur dans le calcul du montant des frais pour les élèves en école élémentaire. Voilà une erreur de calcul. Aussi, je vous invite donc à régulariser cette erreur en rectifiant le montant qui s'élève à 882 euros et non pas 998 euros.
Alors, notre souci, c'est évidemment de calculer au plus juste les sommes qui vont être réclamées aux communes qui ont des élèves qui fréquentent les écoles d'Épernay, en l'occurrence essentiellement les classes ULIS, puisque vous savez qu'il n'y a pas de classe ULIS, donc c'est des unités localisées pour l'inclusion scolaire, ce sont souvent des enfants qui éprouvent des difficultés. Il n'y en a pas autour d'Épernay, toutes les classes ULIS sont sur Épernay, ce qui fait que nous accueillons une quinzaine d'enfants venus de communes extérieures, et celles-ci ont, de par le code de l'éducation, l'obligation de rembourser les frais scolaires des enfants. Le calcul donc de 998 euros était erroné de 16 euros. Donc pour assurer ces communes qu'on va leur demander au centime près les sommes prévues, je vous propose de voter cette délibération. Madame Perrin.
Oui. Alors, on sait tous, ce n'est pas une grande différence, effectivement. Mais à un moment donné, ce qu'on peut quand même regretter, c'est que les frais de scolarité ne permettent plus de financer les cahiers, les stylos, etc., comme autrefois on pouvait le faire, et qui ne rend plus l'école gratuite.
Je ne vois pas ce qui a changé par rapport aux frais de scolarité.
C'est-à-dire qu'avant, en primaire, à Épernay, les élèves avaient les stylos, les cahiers de fournir.
Mais c'est toujours pareil. Les élèves ont toujours du matériel scolaire fourni.
Non. Maintenant, les parents, ils ont une liste de matériel à acheter et à fournir qui avons été fournis par l'école.
Il y a aussi l'allocation de rentrée scolaire qui existe. Damien.
Micro.
Branche le micro. Le micro.
Oui, je tiens à préciser que cette fameuse liste est éditée par le ministère. Elle est recommandée. Donc, c'est des fournitures de base qui sont établies à la fois pour, je dirais, pour les écoles primaires, pour le collège et pour le lycée. Et ça paraît au bulletin officiel du ministère au mois de juin. Voilà.
Enfin, la commune, de toute façon, équipe quand même, donne quand même aux différentes écoles des outils pour faire travailler les élèves, hein, des cahiers, enfin, tout le matériel scolaire. Voilà, donc, il n'y a rien de changé par rapport à ça.
Pas d'autres questions ? Oui, Marc Lefebvre.
Donc, deux remarques, deux questions sur les affaires scolaires. La première, donc l'an dernier, le jour de la rentrée, quand on a fait la visite des écoles, je vous ai demandé si le préau de l'école Crayère, en piteux état, indigne de recevoir des enfants, serait réhabilité. Vous m'avez alors répondu qu'il le serait. Donc à la rentrée 2018, cela n'est pas fait. Je voudrais savoir, j'ai déjà posé la question en commission, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il sera réhabilité cette année?
Alors, ce n'est pas une réhabilitation, c'est une... Enfin, il y a une démolition-reconstruction, en fait, puisque on a, les services m'ont présenté ce dossier il y a quelques semaines. On doit encore en discuter avec, voilà, avec Magali. La commission en débattra. L'idée, c'est... vous savez que maintenant, à Crayère, nous avons l'essentiel des enfants... alors, je ne sais jamais si c'est Crayère 2, Crayère 1, parce que je ne sais jamais qui est le 1, qui est le 2. Mais quand on regarde du dojo, quand on regarde l'école, on a une cour à gauche, une cour à droite. Dans le bâtiment de droite, il n'y a pratiquement plus d'élèves qui sont là, puisqu'ils sont tous dans le bâtiment de gauche. Et donc, la cour qui nous paraît la plus importante, et donc les vestiaires qui nous paraît les plus importants, les sanitaires qui vont être faits, ce sont ceux de gauche. Ceux de droite n'ont plus d'utilité et donc seront très certainement démolis. Donc, les services techniques ont préparé un projet qui sera présenté en commission et qui sera très certainement proposé à l'inscription budgétaire au budget 2019. Donc, vous verrez que ça a des conséquences relativement importantes puisque c'est un espace qui va être vidé, de même que la cour, la grande cour située à droite, toujours quand on est dos au dojo, cette cour n'est plus fréquentée puisque les seuls enfants qu'il y a dans l'école située à droite sont les enfants de maternelle, grande maternelle, qui vont dans la cour des maternelles parce que les enseignants ne veulent pas mélanger les enfants de maternelle et d'élémentaire dans la même cour. Donc on a aujourd'hui trois cours, dont une qui ne sert plus. Et la question qui peut se poser, c'est comment on réaménage, au-delà de la démolition de ces sanitaires et de la rénovation complète des sanitaires, donc de Crayère 2, comment on réutilise cet espace situé devant Crayère. Donc tout ça vous sera présenté dès que la commission, enfin dès que Magali l'aura examiné avec la commission, ce sera très certainement proposé au budget 2019.
Donc la seconde intervention, c'est sur donc les élèves des écoles des PNL en dernier bénéficiaient le soir gratuitement de l'aide aux devoirs, études surveillées ou
pendant
ça dépend des appellations.
Pendant la première.
Pendant la première heure. Avec le changement de système à cette rentrée, les familles doivent débourser entre 1,03 € et 2,59 € par séance, ce qui peut faire environ 10 € par semaine, voire plus de 40 € par mois. Vous n'ignorez pas que 20% des familles sont sous le seuil de pauvreté de notre ville. Les enfants de ces familles pauvres n'ont pas les mêmes chances que les autres. Pas de lieu pour s'isoler, pour travailler, peu d'aide à la maison. Désormais, avec ces études surveillées payantes, vous creusez encore le fossé. Épernay, ville riche, qui investit beaucoup dans son attractivité, ne devrait pas délaisser cette jeunesse et au contraire devrait favoriser l'ascenseur social. Il semblerait, selon mes informations, que 2/3 des élèves de certaines écoles ne fréquentent plus ces études le soir. Monsieur le maire, au nom de l'égalité des chances, je vous demande de rendre à nouveau gratuite cette aide aux devoirs à l'école publique d'Épernay, ainsi aider les élèves qui en ont le plus besoin.
Alors, je pourrais répondre aux deux choses. C'est qu'en ce qui concerne ce temps, ce deuxième temps, le temps qui est payant, l'année dernière, on avait 27% des élèves qui participaient. Cette année, on en a 30%. Donc voilà, hein, on a même gagné en nombre d'élèves qui participent, oui, au temps payant du soir. On a davantage d'élèves qui restent à l'étude, qui est payante cette année. Première chose.
Mais elles sont souvent, vos informations, elles sont souvent
école, foireuses, si vous permettez. Je les ai école par école. Alors, je pourrais te donner une photocopie éventuellement. J'ai les chiffres école par école. J'ai fait l'addition et le pourcentage. Je pense que je ne me suis pas trompée. Et en plus, bon, c'est une obligation de façon de la part de la CAF de faire payer les familles, parce qu'il faut une participation des familles. On est obligé dans la mesure où voilà, on est encore, on va revoir, refaire notre PEDT, hein, prend le projet éducatif de territoire. On va revoir avec un comité de suivi du PEDT. C'est soumis ensuite à la CAF et à l'inspection académique. Et on est obligé de faire financer les familles dans le cadre d'un PEDT. Voilà.
Par ailleurs,
donc on ne peut pas y échapper.
Oui. Par ailleurs, pour les enfants qui sont confrontés à des difficultés scolaires, on met en place un dispositif du mercredi matin qui est un peu expérimental et qui va démarrer.
Et qui est gratuit.
Qui a démarré ou qui va démarrer?
Alors, qui n'a pas encore démarré, parce que pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'inscriptions.
On attendait le repérage.
Hein, voilà, puis ça va être mis en place dans le cadre du PEDT, soumis au comité de suivi.
C'est un projet assez original qui consiste à identifier, grâce aux enseignants, les enfants en difficulté, quelles que soient les écoles d'Épernay, et à leur permettre de participer le mercredi matin à des ateliers ludiques qui ont pour objectif, donc qui sont autour du jeu, qui ont pour objectif de permettre à ces enfants de corriger des faiblesses qu'ils peuvent avoir, ou en termes de langage, ou en termes de calcul, ou en termes de lecture. Et ces ateliers seront mis en place de mémoire vers le 15 octobre et sur les secteurs Max Dormois.
Alors Max Dormois en priorité, dans la mesure où on a pas mal d'enfants justement de catégories socio-professionnelles très défavorisées qui étaient avant logés à Bernon et qui, du fait que maintenant, quand les élèves ne sont plus dans la zone d'éducation prioritaire, ils ne peuvent plus bénéficier de la réussite éducative. Donc voilà, on a pensé qu'il était bien de mettre ce dispositif voilà, dans cette école pour aider les familles défavorisées du quartier. Voilà, et on a le projet aussi à Bernon, enfin dans une école de la zone d'éducation prioritaire. Mais pour l'instant, voilà, on attend, il faut qu'il y ait des professeurs des écoles qui soient volontaires, parce que c'est le mercredi matin, hein, donc il nous faut des intervenants. Et on veut absolument avoir, pour que ce soit pédagogique, éducatif, avoir des intervenants extérieurs, mais avoir toujours un professeur des écoles pour ce dispositif. Hein, c'est vraiment un travail.
Et l'objectif, c'est d'avoir également un tout petit effectif avec un enseignant. C'est-à-dire que c'est vraiment pouvoir travailler de manière qualitative autour des faiblesses de l'enfant, elle-même identifiée par des enseignants. Donc aujourd'hui, on a demandé aux enseignants d'identifier les enfants qui pourraient bénéficier d'un dispositif comme celui-ci. Je rappelle que ce dispositif, il est sur la base du volontariat.
Il est gratuit.
Gratuit sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger les parents de mettre les enfants dans ces dispositifs, mais l'idée, ce serait de les encourager à les mettre. Il ne faut absolument pas que ce soit perçu pour les enfants comme une nouvelle séance d'école, mais comme une séance de jeu, de détente au cours de laquelle ils vont travailler de manière extrêmement ludique et joyeuse un certain nombre d'éléments qui vont leur permettre de surmonter leurs difficultés. Donc ça, c'est un dispositif qu'on met en place en substitution du dispositif qui existait dans les 4 jours et demi. L'idée, c'est de commencer avec un petit effectif et si cette idée, elle prend, de le développer dans plusieurs endroits pour pouvoir toucher les enfants en difficulté.
Voilà. Et là, c'est entièrement gratuit et c'est bien au service des élèves, des familles les plus démunies.
Je suis surpris que la CAF oblige les familles à payer ces études.
Oui, c'est la condition pour qu'ils participent.
Voilà.
La ville peut prendre en charge à la place de la CAF.
Mais la ville ne peut pas toujours payer à la place des autres, monsieur Lefebvre. Bien, je vous propose de voter donc ce rapport. Avis contraire ? Abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4.1, alors, Pierre Marandon.
Oui, il y avait la 3.2.
Ah, pardon, j'ai oublié. Non,
parce que la 3.2, c'est sensiblement la même chose, sauf que c'est pour l'année scolaire 2016-2017. Là, il n'y a pas d'erreur de calcul. On propose donc de fixer la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des écoles à 2 613 € pour un élève en maternelle, toujours plus onéreux, hein, puisqu'il y a les ATSEM, et 887 € pour un élève scolarisé en élémentaire.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons donc au rapport 4.1. Pierre Marandon.
Merci, Monsieur le maire. Le Racing Club Épernay-Champagne connaît un fort développement en termes de licenciés, en termes de jeunes fréquentant l'école de foot, en termes d'équipes, y compris féminines, engagées dans les différents championnats. Cette évolution positive justifie l'accompagnement de la collectivité, tant en subvention de fonctionnement, en installation, qu'en personnel sportif et administratif. C'est dans ce sens que la ville propose la mise à disposition au club d'un agent, en l'occurrence Michael Godefroy, titulaire d'un brevet d'État deuxième degré, à raison de 15 heures par semaine, sachant qu'il est affecté pour les 20 heures restantes au sein de l'équipe des agents du stade.
Merci. Alors, la Coupe du Monde ne va rien arranger, à la fois la Coupe du Monde masculine et celle qui arrive derrière.
Féminine.
On a déjà, je crois, 5 équipes féminines inscrites. Oui, oui. Il n'y en avait aucune il y a quelques années. Donc, on voit les effectifs croître aussi bien chez les garçons que chez les filles. Ce qui n'est pas sans poser des difficultés au club en termes d'encadrement, de vestiaire. On a déjà refait des...
C'est qu'on commence la construction d'un vestiaire supplémentaire.
Pour avoir des vestiaires séparés, évidemment, féminines, oui, et vestiaires masculins. Voilà. Mais en même temps, c'est la rançon du succès. Le sport se développe bien. La fête des sports
Non, je voulais en profiter pour dire deux mots sur la fête des sports qui a connu effectivement un très beau succès sous le soleil, et surtout pour saluer l'engagement de toutes les équipes de la ville, service des sports, mais aussi autres services qui ont contribué sous le soleil à la réalisation, au succès de cette manifestation, et aussi à tous les bénévoles des 60 associations qui étaient présentes et qui ont fait que cette fête a été un très beau succès.
Et le lieu a fait quasiment l'unanimité.
On est en train, on vient d'envoyer là, ça part aujourd'hui.
Un questionnaire
de satisfaction ou insatisfaction, mais tous les échos qu'on a effectivement sont positifs quant à au transfert sur le site qui, à mon sens, est voué d'ailleurs à la vie sportive et associative. Je vois qu'il y a des questions.
Alors, monsieur Angers, monsieur Richard, je ne sais pas dans quel ordre qui avait la main le premier, je n'ai pas regardé. Allez, privilège de l'âge.
Non, simplement, Monsieur le maire, moi je bois vos propos là quand vous nous dites qu'effectivement il va y avoir une croissance des effectifs en matière sportive. Je pense que c'est notre rôle effectivement d'élus municipaux d'être engagés derrière les familles pour les aider dans ce domaine-là. Et je dirais que ça vient à point nommé parce que vos amis du gouvernement, puisque j'ai cru comprendre que vous aurez leur soutien pour les prochaines municipal, c'était dans la presse il y a deux jours.
Je ne l'ai pas vu. Heureux de l'apprendre.
Sont quand même en train de tordre le cou au mouvement sportif d'une manière générale. C'est un peu incompréhensible à quelques années des Jeux Olympiques de ne vouloir concentrer l'effort qu'effectivement que sur une élite et délaisser le mouvement sportif. Je crois qu'effectivement, ça sera aux collectivités territoriales et aux familles, au travers malheureusement du prix des licences, certainement à terme, de prendre le relais par rapport à un État complètement impécunieux dans ce domaine-là.
Alors, je partage à moitié votre point de vue. Je pense que c'est exact pour un certain nombre de sports qui sont peu exposés et donc qui bénéficient peu de retombées. Mais quand on voit, pardonnez-moi l'expression, le fric que le football génère, et les rentrées pour la Ligue de football professionnel, je pense que ce serait logique qu'en matière de football notamment, il y ait davantage de redistribution vers les clubs, parce que là, pour le coup, ce n'est pas à l'État de payer pour le foot, quand on sait les milliards, parce qu'on parle en milliards pour le coup, que suscite le football. Alors je mettrai peut-être le football à part, ce n'est pas le cas de toutes les fédérations, il y a des fédérations qui ont un grand besoin de moyens publics et il faut les aider, il y en a d'autres qui s'en tirent pas mal, et puis il y en a d'autres qui roulent sur l'or. Et je pense que là-dessus, il serait quand même, à mon sens, utile que les pouvoirs publics, d'une manière ou d'une autre, incitent les autorités du football à veiller à l'encadrement, y compris des clubs amateurs, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui ou très insuffisamment. Et là, je crois que ce n'est pas à l'État ou aux collectivités de payer, c'est aussi quand on brasse autant d'argent, on peut en reverser une partie sur le sport amateur, en tout cas plus que ce qui est le cas aujourd'hui. Pierre.
Je voudrais dire que l'Association nationale des élus du sport, toutes tendances confondues, puisque c'est une association nationale, interroge actuellement le gouvernement sur ces mesures dont on a tous entendu parler, et effectivement à la veille des Jeux Olympiques en France.
Monsieur Richard.
Oui, je m'associe, et pour compléter le propos de mon collègue Angers,
Il y a quand même une réalité dans ce pays. Le budget des sports, c'est 0,13% du budget de la nation. C'est-à-dire, c'est peanuts. Il y a quelques années, il y a 20 ou 25 ans, je crois, mais j'étais tellement jeune à l'époque que ça a dû... Mais on n'était pas loin d'atteindre le 1% du budget. Cet objectif était demandé, souhaité, revendiqué par le monde sportif auquel tu fais référence. Mais aujourd'hui, c'est grave, non seulement c'est 0,13, mais le budget va diminuer de 7% en 18, et il va diminuer encore de 6,2% en 19 si on laisse faire. Et les mesures qui amènent la fronde du milieu sportif, le CIO, le machin, enfin toutes les associations représentatives, c'est quand même l'annonce, même s'il y a une sorte de rétropédalage, de la suppression de 1600 emplois de conseillers techniques sur les 3000 postes que compte le ministère. C'est-à-dire que plus 50% des effectifs du ministère sont dans le viseur pour être sabrés. Alors, il y a discussion, rétropédalage. Et ça, c'est grave parce que j'en rajouterai pas, mais quand même, on est en train de dire il faut 80 médailles, etc. La victoire de la France dans la Coupe du Monde de football, là aussi, j'ai lu des articles sur l'engouement que ça suscite, les clubs qui recrutent, enfin qui voient de nouveaux adhérents et adhérentes. C'est très bien. Mais en même temps, tous ces résultats, c'est aussi grâce au travail fait par les conseillers techniques dans les fédérations, dans les départements, dans les régions. Et là, on est en train, en fait, de se tirer une balle dans les deux pieds. Voilà, c'était le
Alors,
le
il semblerait que...
C'est certainement plus pervers que cela.
Pardon ?
C'est certainement plus pervers que cela.
Ah, je ne sais pas. Ouais.
Alors, il semblerait que le ministre des Sports ait inventé un nouveau sport, le rétropédalage, qui va devenir une discipline prisée dès le premier jour. C'est un débat qui nous dépasse un peu, mais je pense qu'effectivement, il faut être attentif à ces questions, parce qu'encore une fois, on a tous l'occasion de le souligner quand on intervient les uns les autres devant les clubs sportifs, le sport est une excellente école de la vie. Elle apprend des valeurs aux enfants que ceux-ci n'ont pas toujours acquis dans le cadre familial, il faut le regretter. Mais c'est vrai que le dépassement de soi, le sens de l'effort, le sens du collectif, etc., sont des valeurs qui peuvent évidemment servir énormément dans la vie de tous les jours. Sur ce rapport, je vous propose donc de voter favorablement. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions ? Pas d'abstention, pas de vote contre. Et je propose de passer au rapport 4.2, et c'est Christian de Mongin qui prend la main.
Nous pourrions considérer les points 4.2 et 4.3, puisqu'il s'agit en effet de revoir les conventions d'objectifs et de moyens avec deux associations, d'une part les Amis de la Musique et d'autre part le Salman Azhar. Voilà, tout simplement, comme ces deux associations bénéficient de subventions, il faut bien une convention, et cette convention est mise à jour puisqu'elle était arrivée à échéance pour les Amis de la Musique et pour le Salman Azhar. Et dans celle du Salman Azhar, la convention proposée est restructurée, plus précisée. Voilà. Donc je vous invite à renouveler ces conventions, et les modalités sont détaillées dans le rapport en votre possession.
Merci. Des questions ? Marc Lefebvre et Madame Demange.
Oui, donc toute convention d'objectifs et de moyens doit faire l'objet d'un rapport annuel. C'est dans les conventions en général. Et je voulais savoir, je l'ai dit en commission, une réponse qui ne me satisfait pas. On devrait avoir ici au Conseil municipal, puisqu'on passe convention avec des associations, des rapports de ces associations.
Non, ils sont disponibles au service de la vie associative, hein, oui. Qui collecte tous les bilans d'activité des clubs qui, effectivement, ont leurs assemblées générales. Et tout ce travail-là est fait auprès de Christine Mailly. Donc, je vous invite à vous rapprocher, parce que ça représente un certain nombre de dossiers.
Donc, il y a des rapports écrits.
Oui, oui,
c'est
oui.
Ce n'est pas des rapports oraux.
La plupart d'entre eux sont écrits dans les assemblées générales et sont parfois même très longs. Et très exhaustif.
Ouais.
D'autres sont plus synthétiques, mais on ne peut pas demander à chaque association de faire la même chose, compte tenu que les moyens ne sont pas les mêmes.
D'accord.
Mais je peux vous assurer que tous ces documents sont chez nous.
Mais la réponse avait été donnée que voir les les rapports de toutes les associations au conseil municipal, ça représenterait peut-être beaucoup de choses. En revanche, pour les grosses subventions qui existent, s'il y en a, je pense au Salman Hazard par exemple, on pourra en commission regarder cela une fois. Vous pouvez y accéder de toute façon.
Ah, ils sont à disposition. Oui. Vous rapprochez de nos services et. Pas d'autres. Ah, pardon, excusez-moi, madame de Mange.
Justement, au sujet du dossier du Salman Hazard. Ce dossier appelle quelques réflexions avec une subvention de fonctionnement de près de 560 000 euros. J'aimerais avoir quelques précisions sur cette convention mise en place avec le Salman Hazard. Les locaux sont mis gracieusement à la disposition de l'association de manière permanente, ainsi que le matériel et le mobilier. La collectivité assure également le paiement des charges telles que le chauffage, l'électricité, l'eau et même le téléphone. Selon la convention, l'association a le droit de louer ou plutôt sous-louer les espaces du théâtre pour les professionnels et à encaisser les recettes pour son propre compte. Ne payant pas de loyer, ne serait-ce pas plus logique d'encaisser ces recettes au nom de la collectivité ? L'association perçoit beaucoup de subventions de la part de la région, du conseil départemental, de la Marne, de la DRAC et de notre part. Pour rappel, nous avons voté une subvention d'équipement de 89 000 euros lors du conseil municipal de novembre 2017 pour renouveler entièrement le système son. La région vient d'accorder aujourd'hui même une nouvelle subvention de 23 000 euros pour le renouvellement du système son. Est-ce du matériel supplémentaire à la demande initiale ? Pourriez-vous me transmettre là ou les factures correspondantes ? Nous accordons
Pour le son, vous voulez dire ?
Oui, pour l'acquisition du matériel son.
Ça fait partie. L'équipement son coûtait aux alentours d'un peu plus de 100 000 euros. Et la région a subventionné une partie. Donc c'est bien le même matériel avec la part subventionnement région et la part subventionnement ville. D'accord. Ce n'est pas un matériel supplémentaire.
Parce que nous, c'était quand même en novembre 2017, il y a presque un an.
Non, c'est...
La subvention.
Comment ?
C'est pas un engagement supplémentaire.
Non, c'est toujours le même matériel. On a la possibilité pour ce genre de matériel de solliciter les subventions de la région du département. En l'occurrence, c'est la part de subvention de la région.
Si possible, me transmettre les factures pour cet achat. Nous accordons ce jour une nouvelle subvention d'équipement de 7 000 euros. J'ose espérer que le théâtre va être bien équipé et pour un long moment. Nous avons également voté une subvention d'action de 7 760 euros en décembre 2017, comme le prévoit la convention, pour les manifestations, à l'initiative de la collectivité au-delà du 14e jour d'utilisation. Pourquoi rémunérer l'utilisation d'un lieu à une association qui ne paye pas de loyer ? Pourriez-vous me transmettre les trois derniers bilans de cette association afin de connaître le montant total des subventions obtenues et de vérifier la cohérence des chiffres ? Enfin, la collectivité devrait développer beaucoup plus Épernay Spectacle avec la venue de quelques artistes plus connus afin d'attirer davantage le public sparnassien et alentour dans ce lieu magnifique et historique que bien peu de sparnassiens fréquentent régulièrement. N'étant pas persuadé non pas de la nécessité, mais de la pertinence de cette convention, je voterai contre cette délibération. Je vous remercie.
Alors, on ne pourra pas vous donner tous les éléments aujourd'hui, mais on vous les communiquera. Sachez que l'association emploie, j'ai plus le nombre de personnes...
8, je crois. Je crois que c'est 8.
J'ai plus le nombre d'équivalents temps plein. Et quand, par exemple, alors, dans la convention qui nous lie à eux, on a effectivement un certain nombre de jours gratuits, dont on fait profiter les associations locales. Et il n'empêche que ces jours-là, l'équipe du théâtre mobilise ses agents, alors gratuitement lorsque nous sommes dans la limite des jours indiqués, et au-delà d'un certain nombre d'un forfait de jours que nous avons négocié avec l'association, avec le Salman Hazard, on dépasse d'ailleurs rarement le nombre en question. Il peut nous arriver qu'on le dépasse. La convention prévoit effectivement qu'on rémunère l'association pour le personnel qu'elle met à notre disposition. Ensuite, il faut savoir que aucun théâtre comme celui d'Épernay ne dégage une rentabilité. C'est une activité de service public qui, évidemment, ne peut vivre qu'avec le soutien de la collectivité. Il se trouve qu'on est, et c'est une des caractéristiques d'Épernay, dans un bâtiment historique, classé monument historique, avec des contraintes très fortes. Et je crains qu'on ait à vous présenter dans les années qui viennent des projets de travaux bien plus onéreux que ceux qu'on a fait jusqu'ici, parce que, évidemment, ce bâtiment a des contraintes d'exploitation incomparablement plus fortes qu'un théâtre moderne, puisque toute la machinerie est activée manuellement. Il nécessite un entretien beaucoup plus important qu'un théâtre moderne. Il nécessite plus de personnel compte tenu de sa structure, de sa complexité et des exigences de sécurité, qui fait que, très objectivement parlant, un théâtre comme le Théâtre des Pernets, qui est d'une part contraint par le nombre de spectateurs qu'il peut accueillir, qui ne peut pas dépasser 410-420, donc qui a des recettes limitées par la faiblesse de la jauge, et de l'autre côté des dépenses importantes et majorées par le fait que c'est un monument historique et qu'on peut faire ce qu'on veut dedans, les machineries ne peuvent pas être automatisées comme ça se passe ailleurs. Tout cela explique que c'est un théâtre qui, j'allais dire, coûte plus cher à la collectivité que ce que coûterait le même théâtre dans un local récent. Maintenant, ensuite, il y a la programmation, mais ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on fasse peut-être pour l'ensemble du conseil municipal prochainement, en présence du directeur du théâtre, une séance au cours de laquelle on pourrait à la fois lui demander de nous présenter la saison, les difficultés qu'il peut rencontrer, l'évolution du monde de la culture, parce qu'il est aussi, comme tous les directeurs de théâtre, contraint par l'économie du théâtre en France, du spectacle vivant en France, qui est évidemment une économie très complexe à gérer. Et puis en même temps, vous expliquez, décortiquer un peu le budget du Salmanazar pour vous montrer quelles sont les grandes masses, comment ça évolue dans le temps, ce qui vous apportera à vous, mais en même temps à l'ensemble des conseillers, un éclairage un peu plus précis sur l'activité du Salmanazar. Et puis en même temps, montrer les résultats, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, spectacle après spectacle, viennent, dans les catégories jeunes, dans les abonnés, dans les personnes qui peuvent aller une, deux, trois fois au théâtre par an, les actions qui sont menées aussi en dehors du théâtre, les créations, l'accueil d'artistes en résidence. Voilà, il y a plein de choses derrière le Salmanazar. C'est vrai qu'on ne connaît pas tout de la vie du Salmanazar. Souvent, on parle du Salmanazar à travers les artistes les plus connus qui viennent, et il y en aura encore cette année, mais quand on fait venir... je vais citer Arditi, des artistes de ce calibre-là. Évidemment, sans le soutien de la collectivité de manière séparée de la subvention habituelle, on ne pourrait pas y arriver, parce que sur une jauge de 420 sièges, il va de soi qu'on ne peut pas rentabiliser un spectacle et que le coût, la perte d'exploitation peut être assez importante, alors que certains théâtres, je pense au théâtre de Troyes, la ville de Troyes, théâtre municipal de Troyes, il doit y avoir 1000 places. C'est sûr que pour un même spectacle, quand vous avez 1000 entrées et que de l'autre côté, vous en avez 420, ben vous avez plus de déficit. Donc ça, c'est l'inconvénient de disposer d'un petit joyau qu'est ce théâtre Gabriel Dorgia, qui est absolument magnifique. Tout le monde le dit et tous les artistes sont les premiers à admirer ce théâtre. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, les coûts d'exploitation sont plus élevés et les recettes d'exploitation sont souvent moins élevées. Mais je propose peut-être, Christian, qu'on organise ça lors d'un prochain conseil et qu'on fasse venir Christian Dufour, qui a maintenant pas mal d'années d'expérience dans le théâtre et qui vous expliquera et répondra à toutes vos questions de manière à ce que vous ayez l'éclairage le plus complet possible sur la vie de ce théâtre.
Cela dit, je répondrai qu'il faudra une séance complète du conseil et non pas une simple intervention, car cela signifie voir ce que signifie aussi politique culturelle. Parce que quand on va lui dire pourquoi il n'y a pas de théâtre de boulevard, pourquoi il n'y a pas les chanteurs populaires, pourquoi vous ne recevez pas Jamel Debbouze, et d'abord parce que lui, il vient au Millésium.
Il vient en avril au Millésium, en l'occurrence.
Ensuite, s'il doit expliquer aussi pourquoi l'association ne paye pas de loyer et compagnie, je crois qu'il y a une ambiguïté sur l'association. Le Salmanazar est une association qui est chargée de gérer le théâtre Gabriel Dorgia, qui appartient à la ville, et ce n'est pas l'association en elle-même qui cherche à faire des bénéfices. Et si jamais elle en faisait pour elle-même, eh bien c'est sur le budget de la ville que ça rejaillirait positivement après. Je crois qu'il y a une ambiguïté là. Alors, il peut venir présenter tout ça, mais...
On fera une séance comme on a fait plusieurs, oui.
Prévoyons une heure passée.
Entendu. Pardon ? Et on vous fera parvenir en attendant les éléments que vous souhaitez avoir, les bilans des trois derniers. Madame Perrin. On pourrait la faire au théâtre d'ailleurs, oui, ça pourrait peut-être faire une visite. Parce que certains ne sont jamais allés dans les coulisses du théâtre. Ça peut être intéressant. Comment ? C'était... Non, mais d'aller au théâtre, mais d'aller voir aussi ce qu'il y a derrière les rideaux.
C'était prévu aux journées du patrimoine. Il y a eu pas mal de monde qui l'a regardé.
Je propose qu'on fasse cette réunion au théâtre. Comme ça fera une visite du théâtre et une explication du fonctionnement du théâtre. Madame Perrin.
mes collègues ont tenu un discours sur la baisse des subventions du gouvernement en direction du sport. On peut tenir le même en direction de la culture. Et aujourd'hui, la culture, quel que soit son domaine, qu'elle soit au niveau de la musique, du théâtre ou du cinéma, voit fortement l'implication du gouvernement baisser.
Bien, je vous propose de voter donc ce rapport. C'était lesquels c'était les
4-2 et 4-3.
4-2 et 4-3. Avis contraire. Oui, pardon. Donc, pour le 4-2 et contre le 4-3, c'est ça? Pour le reste, avis contraire, abstention, les rapports sont adoptés. Nous passons au rapport 4.4, ça concerne les conventions de mécénat, c'est Christian de Mongin.
4.4 et 4.5, puisqu'il s'agit deux fois de conventions de mécénat. 4.4, la première, c'est mécénat. Alors, chaque fois, pour les deux, c'est entre trois partenaires, la ville d'Épernay, la Fondation du patrimoine et une société, à savoir Euno-Concept pour la première, qui propose un mécénat de 100 000 euros en numéraire et 30 800 en nature. Nature, c'est-à-dire des vidéos, des plans, etc., sur 15 ans. Et la deuxième, c'est avec le champagne Bergère, alors A. Bergère et André Bergère.
C'est deux sociétés distinctes.
Deux sociétés différentes, qui proposent 100 000 euros. Voilà. Je vous propose donc d'accueillir ces nouveaux mécènes.
Alors, ce n'est pas la première convention. J'espère que ce n'est pas... Non, je suis même certain que ce ne sont pas les dernières, puisque d'autres mécènes sont en discussion avec le service d'affaires culturelles pour apporter leur contribution à ce très beau projet. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Les deux rapports sont adoptés. Oui.
Christian, avez-vous combien on a dû de
Je crois... Le chiffre que j'ai, c'est 30 800. Sur la délibération, c'est marqué 50 000, effectivement.
Ouais. Oh, je peux, enfin...
Alors, ça doit être 50 000, parce que ça doit être vérifié.
Hein. Donc, pas d'opposition, pas d'abstention. Les rapports sont adoptés. Merci. Nous passons au rapport 4.6. Christian de Mongin.
Alors, elle rejoint ce dont on vient de parler. Il s'agit de donner à l'association Le Saint-Nazaire une subvention pour un spectacle d'Épernay Spectacle qui sera donné le 15 novembre. Fausse note, tel est le titre de la pièce, avec Christophe Malavoie et Tom Novembre, puisque vous demandiez tout à l'heure des noms. Eh bien, voilà, Christophe Malavoie.
Merci.
Subvention, donc, pour ce spectacle.
À chaque fois qu'il y a Épernay Spectacle, on passe en conseil municipal les subventions pour chacun des spectacles. Puisque ça ne fait pas partie de la saison ordinaire, c'est un plus qui est apporté à la saison du Saint-Nazaire. Pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport est adopté. Rapport 4-7, Christian de Mongin toujours.
Alors on va mettre 7 et 8 en même temps, parce qu'il s'agit dans les deux cas de mise à disposition du théâtre gracieusement. D'une part pour l'harmonie Les Tonneliers, qui donnera un concert le 30 septembre. Alors le théâtre est proposé à titre gracieux, parce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que l'association n'a pas pu donner son concert au Palais des Fêtes à la date prévue. Et par négociation, nous lui proposons de le faire au théâtre, gracieusement, le 30 septembre.
Merci.
Quant à la deuxième, pardon, c'est un spectacle musical proposé par un professeur de Stéphane Hessel avec ses élèves de terminale autour de la guerre de 14, et nous proposons, là encore, de mettre le théâtre à disposition.
Très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5.1, Anne-Marie Legras.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose de procéder au retrait de la délibération 2018-45-73 du 28 mai 2018, par laquelle nous avons acté la cession d'une emprise foncière de 300 m² Allée de Cumières à la société Art de Vivre. En effet, face à la saisine du tribunal administratif par la société McDo et afin de sécuriser la procédure de cession à venir, dont le principe est maintenu, il convient de procéder au retrait de la délibération précitée.
Oui, un petit mot d'explication. Ça renvoie d'ailleurs à la provision qu'on a votée au début du Conseil. En réalité, la société McDo nous a attaqué au tribunal administratif, considérant qu'on aurait dû faire un déclassement du domaine public pour cette session qui est intervenue en mai ou juin. Notre avocat considère que la parcelle en question ne relevait pas du domaine public et il n'y avait donc pas la procédure de déclassement à faire. Pour autant, la volonté de McDo est très claire, c'est de retarder la vente parce que c'est un concurrent potentiel pour eux. Donc c'est une démarche qui est courante entre ce genre d'entreprise. Pour autant, pour sécuriser notre procédure et pour nous éviter un long temps d'attente et un procès, on retire, comme le droit administratif nous l'autorise, la délibération. On repassera au prochain conseil une délibération avec enquête publique. Comme ça, on est sûr au moins qu'on n'aura pas de difficulté derrière. Donc c'est un contretemps qui est, à mon sens, sans conséquence et qui résulte simplement d'une volonté de McDo de faire gagner du temps et d'éviter qu'un concurrent vienne s'installer à côté de chez lui. Donc on reparlera de ce rapport lors du prochain conseil et il nous semble plus raisonnable à notre niveau de retirer la délibération et de vous en reproposer une autre au prochain conseil. Voilà, des questions ?
Oui, Marc Lefebvre. J'ai voté la provision, puis je vais voter cette délibération, mais je tiens à rappeler qu'au mois de mai, j'avais développé pas mal d'arguments et voté contre cette vente à cause de la multiplication à l'entrée des Pernets des établissements de malbouffe, c'est vrai.
Donc, pas d'opposition, pas d'abstention. Donc, on sera amené lors d'un prochain conseil à redébattre de cette question. Nous passons au rapport 5.2, Anne-Marie.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose de céder à Monsieur Didier Houy un jardin de 410 mètres carrés environ, dont il est locataire depuis 1994. La cession s'effectuera au prix de la valeur vénale du terrain et Monsieur Houy s'acquittera des frais de bornage au prorata de sa surface, ainsi que des frais d'acte.
Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Oui, Marc Lefebvre.
Sur les plans d'urbanisme, il est bien noté que c'est réservé à des zones de jardin, qu'on ne peut pas accueillir des baraques à frites ou
Non.
Quand le projet de l'île bleue sera réalisé.
On a parfois des baraques qui situent sur ce secteur et qui sont installées de manière sauvage, mais effectivement, dans ce secteur, toute forme d'urbanisation est proscrite. Donc on ne peut faire que du jardinage, du verger. Enfin. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5.3. Jonathan Rodriguez.
Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, dans le cadre de la procédure réglementaire de fermeture et de restitution des sites pétroliers ou des stations-services, en l'occurrence, c'était une station Elf qui a fermé. Il y a des contrôles réguliers qui sont effectués. Donc c'est la DREAL qui, comme on dit, ces contrôles. Il y a eu des choses qui ont été faites depuis quelques années. Maintenant, ça fait un ou deux ans. C'est satisfaisant, mais la DREAL poursuit la procédure classique de contrôle et de surveillance. Donc, c'est de prolonger, de faire une convention avec Total pour qu'ils puissent implanter des nouvelles appareils de mesure, donc des piézomètres et des piézères pour analyser le sol.
Des questions ? On est toujours dans la phase de dépollution. Hein. Elle dure depuis longtemps puisqu'il y avait une espèce de machine là qui...
Oui, qui faisait un ronronnement la nuit.
Voilà.
C'était pour dégazer
C'est un dossier qui dure depuis au moins, je dirais, 8 ou 10 ans. Ça a été très compliqué d'avancer dans ce dossier avec Total. Il y a eu ensuite des discussions et des négociations entre Total et le propriétaire de l'appartement situé au-dessus des fameuses machines. Et là, maintenant, on est donc sur des piézomètres et des...
Piézères.
Et des piézères. Bon, ça fait partie de la procédure de dépollution, tout étant pris en charge par Total.
Oui, Total,
ça fait partie de leurs obligations. Ouais. Mais c'est long parce que ça fait, je vous dis, au moins 8 à 10 ans qu'on traîne ce dossier-là. Ouais. Et c'est pas faute d'avoir relancé Total, qui s'est légèrement endormi sur le dossier pendant quelques années. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Il nous reste, pour la première partie de ce conseil, le compte-rendu de décision prise par le maire par délégation du conseil municipal. C'est l'article L2122-22. Y a-t-il des questions sur ce rapport traditionnel ? Allez-y, monsieur Lefebvre.
Simplement au numéro 22, outrage et rébellion à agent. Je vais savoir, donc, il y en a eu un en 2017 et puis un en 2016. Est-ce que c'était des faits graves ? On n'a pas été au courant.
En règle générale, ce n'est pas des faits trop graves. Là, en l'occurrence, donc, on avait effectivement des faits en janvier 2016 et un autre en mai 2017. La consigne qui est donnée quand il y a rébellion, insulte, etc., c'est systématiquement de déposer plainte. Et en l'état, en l'espèce, il s'agit du même individu qui, en état d'ébriété, avait insulté et s'était débattu lorsque les policiers avaient été intervenus pour le séparer d'un autre protagoniste. Depuis, l'individu ne s'est plus manifesté. Mais sachez qu'on est très attentif à la protection de nos agents, que ce soit des policiers municipaux ou d'autres agents. On a parfois des agents qui peuvent être des agents des espaces verts ou d'autres services ou propriétés qui sont pris à partie. Et la politique constante qui est la nôtre, c'est de systématiquement être à côté de nos agents et de déposer plainte lorsque le comportement d'un individu menaçant le justifie. On ne le fait pas de manière systématique s'il n'y a rien de sérieux, mais en l'occurrence, c'était le cas. Pas d'autres questions sur
oui, ces... concernant oui. le numéro 48, extension du dispositif de vidéoprotection, donc pour 40 000 euros. C'est dans quel quartier ?
Ça doit être l'extension sur l'année de Champagne, puisque nous n'avions pas de caméra dans ce secteur-là. Nous avons des événements qui rassemblent du monde, donc il est justifié de le faire. Et par ailleurs, l'ouverture du musée nous amène également, va nous amener à un courant de circulation plus important. On a par ailleurs les abords du lycée également qui justifient une surveillance de ce côté. On aura donc, et ça avait été annoncé au budget prévisionnel, le budget primitif, hein. Donc c'est dans la logique des choses. On aura à terme donc 19 caméras plus 3 mobiles, 19 caméras fixes plus 3 mobiles. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à l'examen du contrôle de la Chambre régionale des comptes. Vous en avez eu communication. Quelques mots sur ce contrôle. Le dernier devait dater des années, 2008-2012 par là, 2013. Et donc, comme c'est à peu près le cas tous les 5 à 6 ans, nous avons donc reçu un magistrat qui était venu faire deux types de contrôles. Un premier contrôle sur la ville et l'autre contrôle qui portait sur l'activité éducation et qui était un contrôle transversal sur un certain nombre de villes de France puisque c'était une enquête nationale de la Cour des comptes. Et donc les services qui ont été contrôlés chez nous, il y a eu le service éducation de manière assez approfondie dans le cadre d'un contrôle opéré au niveau national et qui va sans doute donner lieu à la rédaction d'un rapport de la Cour des comptes sur la manière dont les collectivités gèrent la partie éducation, et un contrôle plus classique concernant les comptes de la collectivité. Ce qu'il en ressort, c'est que la bonne gestion de la collectivité est soulignée à travers notamment la maîtrise des charges de fonctionnement. Je ne vais pas vous lire l'intégralité du rapport, puisqu'il fait 70 pages, mais il est indiqué notamment que s'agissant des charges à caractère général, elle relève la Chambre régionale des comptes que cette maîtrise est obtenue par la baisse importante de certaines dépenses pour compenser la hausse du coût des achats. Il est indiqué également que les dépenses de personnel sont contenues et que la progression est inférieure au glissement vieillesse technicité. Autre indicateur soulignant cette maîtrise en matière de fonctionnement, la somme des dépenses de fonctionnement et du remboursement de la dette en capital s'établit à 89,9% des recettes réelles de fonctionnement, ce qui, là aussi, est un montant tout à fait intéressant dans la mesure où elle démontre les marges de manœuvre que la ville a su préserver. Concernant l'excédent de fin d'exercice affecté à l'investissement, il est souligné que cet excédent de fin d'exercice dégagé tous les ans correspond bien à un effort de gestion de la collectivité, l'objectif étant d'optimiser les dépenses de fonctionnement pour maintenir une capacité d'investissement sans nécessairement recourir à l'emprunt bancaire. S'agissant de la dette, il est indiqué, je cite, « la commune maîtrise l'endettement maintenu à un niveau ne présentant pas de risque ». Nous avons l'occasion à chaque budget et à chaque débat d'orientation budgétaire de vous préciser la qualité de la dette et la sécurité de cette dette. S'agissant du temps de travail, je rappelle que le rapport de 2013 rappelait la nécessité de respecter le niveau minimum du service actuel de 1607 heures. Aujourd'hui, la Chambre confirme que le nouveau règlement du temps de travail adopté en mars dernier permet bien d'assurer le respect de la durée légale du travail. Donc elle considère que la recommandation a été mise en œuvre. Dans le domaine scolaire, sont soulignés un certain nombre de pratiques de bonne gestion, notamment la réduction de la dépense liée à la restauration scolaire. Ça a fait l'objet d'un débat à l'époque. La question, c'était est-ce qu'il fallait que nous conservions en régie cette activité qui nécessite une certaine technicité et dont les risques ne sont pas anodins s'agissant de la sécurité alimentaire des enfants. Nous avions fait le choix d'externaliser cette prestation et la Chambre régionale des comptes considère qu'il y a une amélioration de la qualité et de la variété des repas et une baisse des coûts, ce qui démontre que ce choix était pertinent. Par ailleurs, la Chambre souligne également que le redéploiement des ressources humaines des médiathèques avec la suppression du bibliobus et l'élaboration d'un appel à projet en direction des écoles a contribué à la baisse des dépenses comme ça avait été présenté. Néanmoins, la Chambre régionale des comptes fait état effectivement des contraintes que subit la collectivité à travers la baisse marquée des dotations et participations de l'État qui se chiffre à environ 23%, ce qui est évidemment extrêmement important. La Chambre régionale des comptes reconnaît également que nous avons une ponction, mais ça vous la connaissez, ponction croissante du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, et qui a coûté également à la collectivité et diminué ses marges de manœuvre. S'agissant de la fiscalité, il est rappelé également, et la Chambre le reconnaît, que le choix qui a été fait, mais c'est un choix historique, ça a été d'avoir des politiques d'abattement assez généreuses en direction des familles, ce qui se traduit évidemment par un taux des impositions légèrement majoré, puisque si on décide d'accorder des abattements importants, ça a une conséquence directe sur le taux de fiscalité. En matière comptable, la Chambre régionale des comptes souligne que nous avons un certain nombre de progrès à formaliser et à faire. Ça concerne notamment, mais ce sont des sujets anciens, l'inventaire des biens municipaux antérieurs à 1997, sur lesquels la Chambre prend acte que l'actualisation en cours, mais qu'elle n'est pas achevée. S'agissant des immobilisations, la Chambre reconnaît que le transfert des immobilisations en cours au compte d'immobilisation définitive a été réalisé depuis le contrôle. Donc là, les efforts ont été produits. En ce qui concerne les justificatifs des restes à réaliser, la Chambre nous a reproché de nous contenter parfois d'équilibrer les restes à réaliser avec une simple lettre d'engagement des banques, alors qu'il faudrait, selon elle, formaliser un contrat de prêt. C'est un formalisme que nous ne faisions pas, sur lequel on nous demande d'être plus vigilants, mais il faut reconnaître que nous n'avons jamais été confrontés à l'absence de propositions bancaires, de sorte que faire un contrat de prêt pour, au bout du compte, ne pas le mobiliser nous semblait pas utile, et de ce point de vue, la demande de la Chambre diverge par rapport à nos pratiques. Est-ce qu'il faut respecter scrupuleusement cette demande au risque d'alourdir le travail ? Je comprends que ce genre de demande existe lorsqu'on a une collectivité surendettée et qui n'est pas sûre d'avoir les concours bancaires. Nous, en règle générale, on simplifie les choses en ayant une lettre d'engagement de la banque qui n'est pas un véritable contrat de prêt. Je pense qu'il faudra très certainement qu'on évolue dans nos pratiques sur ce point. Sur la prévision budgétaire, Chambre considère que la prévision budgétaire est satisfaisante en fonctionnement, mais relève qu'il y a des améliorations à faire en section d'investissement, ce qui se traduirait pour la Chambre générale des comptes par une amélioration du taux d'exécution. Là aussi, le magistrat nous a donné quelques trucs pour améliorer le taux d'exécution. On a examiné la question avec le service des finances. Il faudrait notamment multiplier les décisions modificatives pour annuler des crédits en fin d'année et les réinscrire en début d'année, ce qui automatiquement améliorerait le taux d'exécution de nos budgets. C'est une pratique qui, là aussi, est lourde, alors que nous pratiquons, la pratique des reports, qui fait qu'en fait, quand on vote des crédits d'investissement, très souvent, quand ils ne sont pas consommés à la fin de l'année, on les reporte de manière systématique. On a parfois des reports importants et ces dépenses finissent par être engagées et mandatées. La Cour considérait qu'on devrait plutôt, en fin d'année, c'est-à-dire vers le 20 décembre, annuler ces dépenses et les réinscrire début janvier, ce qui revient au même, en fin de compte, mais ce qui présente un affichage comptable différent. Alors, la Chambre a fait un zoom sur deux thèmes, la Chambre a analysé les prévisions du coût d'investissement qu'elle juge réaliste et raisonnable. S'agissant du centre de conservation, l'avis est confirmé puisque, mobilier compris, le coût est de 1 566 € hors taxes pour le mètre carré, pour une estimation qui était à 1 720 €. Donc on a réalisé cette opération à un prix inférieur à ce qui a été imaginé au niveau de la phase concours. La CRC nous invite également à veiller à l'exploitation du musée, ce qui ne nous a pas complètement échappé. Et nous avons tout à l'heure créé un poste supplémentaire pour le musée. Évidemment, il nous faudra là aussi gérer les choses de manière particulièrement rigoureuse et vigilante, parce qu'évidemment, un équipement comme le musée n'est pas un équipement rentable non plus. C'est un équipement qui sera déficitaire, comme tous les musées de France, à part peut-être quelques musées prestigieux qui bénéficient d'un mécénat et de prêts de collection ou d'opérations tout à fait exceptionnelles par les plus grands groupes français en matière de luxe notamment. Mais nous veillerons évidemment à ce que l'exploitation du musée soit, à défaut d'être équilibrée, aussi respectueuse que possible des objectifs que nous nous sommes fixés. S'agissant de la politique scolaire et périscolaire, quelques chiffres rappellent dans ce rapport l'importance de la politique menée par la commune en la matière. S'ajoute à la gestion des écoles que vous connaissez un certain nombre de dispositifs, notamment la réussite éducative, qui intègre les actions de soutien à la parentalité et l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Pour le reste, donc la ville considère, la Chambre générale des comptes considère que sur les 5 années qui ont fait l'objet du contrôle, la ville a investi plus de 2,5 millions dans les écoles, ce qui semble un effort relativement important, mais qui se ralentit puisqu'aujourd'hui, à l'exception du cas que nous avons évoqué tout à l'heure, à savoir les sanitaires de l'école Crayères, nous avons des écoles qui sont en bon état, qui ont été sérieusement rafraîchis, très bien équipés sur le plan informatique, ce qui devrait évidemment entraîner une baisse des crédits en la matière. Et puis, il termine par un rapport concernant la réforme des rythmes scolaires, avec effectivement la création de cette réforme scolaire, puis l'évolution de la position. La Chambre ayant indiqué qu'en 2016, le coût de la réforme des rythmes scolaires était de 134 817 € pour la commune, en dépit des aides que l'État avait versées. Donc voilà donc l'état de ce rapport de la Chambre générale des comptes. On en a connu des beaucoup plus difficiles et des plus critiques. Celui-ci était plutôt positif en ce qui nous concerne. Il reste un certain nombre de points strictement formels sur lesquels le service des finances s'est penché avec la directrice générale des services pour essayer de faire en sorte de ne pas, la fois prochaine, à nouveau être critiqué sur des questions qui ne prêtent pas, j'allais dire, à inquiétude sur le fond, mais qui sont des remarques strictement formelles sur la manière dont nous présentons les choses, l'objectif étant pour nous d'épargner un formalisme excessif à nos services, surtout en période budgétaire où, comme vous pouvez l'imaginer, il ne manque pas de travail. Voilà donc les principales remarques qui ressortent de ce rapport. À vous la parole. Je ne sais pas qui parle en premier. Monsieur Angers.
Oui, merci, monsieur le maire. Je ne sais pas si votre mea culpa sur la manière de gérer les chiffres doit nous rassurer. Moi, simplement, j'ai relevé à la lecture de ce rapport quelques lignes. Je cite page 11 où on pointe l'inventaire des immobilisations en disant que celui-ci est en décalage avec l'inventaire physique, que tout ça provoque un décalage de l'amortissement compte tenu de cette non-mise à jour de l'inventaire physique. Page 13, là, il est question de décalage avec les titres de recettes et qu'il y a donc des régularisations qui sont prises en compte et d'autres non. Page 14, je cite, « Certaines libertés prises avec les règles comptables ». Page 16, définition des restes à réaliser, vous en avez parlé, qui ne peuvent être définis comme tels que s'ils sont couverts par un acte juridique. J'étais un petit peu perturbé à la lecture de ces propos introductifs dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Je me suis demandé S'il n'y avait pas eu quelques erreurs, il peut toujours y avoir quelques erreurs, ça peut être excusable et excusé, mais là, il semble quand même que ce soit une volonté de présenter les choses d'une certaine manière. Et je suis heureux de vous avoir entendu dire que vous ferez en sorte qu'on puisse rentrer dans les rangs à ce sujet.
Ça ne signifie pas que je partage l'avis de la Chambre régionale des comptes. Je vous interromps une seconde, mais c'est vrai que la Chambre régionale des comptes, et c'est son rôle, rappelle les règles avec une dimension assez académique, c'est-à-dire, voilà, la règle, on ne prévoit que quand on est dans la pratique, et j'avais eu l'occasion d'expliquer ça à des magistrats qui, pour certains d'entre eux, n'ont jamais géré une collectivité, il y a des usages qui se pratiquent, qui nous font gagner du temps. Par exemple, avant, sur le recrutement, il faudrait délibérer sur un poste uniquement quand on a... bien avant le recrutement, en réalité, on engage parfois les procédures de recrutement avant de créer le poste, ce qui permet, quand on crée le poste, de créer le poste en fonction du profil de la personne qu'on envisage de retenir. Alors que si on suit les règles de la Chambre régionale des comptes, il faudrait faire une ouverture de poste, ensuite engager un recrutement et ensuite repasser un rapport en conseil municipal pour modifier le poste initial, parce que le profil de la personne qu'on recrute est très souvent différent de par son parcours, de par son passé, du poste qu'on envisageait de créer. Et donc, effectivement, comme beaucoup de collectivités, on ne fait qu'une délibération au Conseil. Pour autant, on ne cache rien au Conseil, puisque aucun poste n'est créé sans qu'il n'ait été ouvert par la collectivité. Et c'est vrai qu'on a toute une série de raccourcis comme ça, que beaucoup de collectivités pratiquent par souci de gain de temps et d'économie, de procédures et de rapports. Pour autant, à aucun moment, il n'est... évoquer le manque de sincérité dans les démarches, ce qui me semble être l'essentiel. Alors c'est vrai que quand on suit la Cour des comptes, ça nous amènera à délibérer plus souvent, à délibérer parfois plusieurs fois sur le même sujet, alors qu'on en procède par habitude, et nos services ne sont pas condamnables en ce sens, dans la mesure où, en ce qui me concerne, je les pousse à aller au plus vite et à faire le plus efficace possible. On a des pratiques un peu différentes, et d'une collectivité à l'autre, on a des pratiques parfois très différentes, puisqu'on ne procède pas du tout de la même manière dans certaines régions, dans certains départements, dans d'autres collectivités, et que l'interprétation qu'en fait les chambres régionales des comptes est très différente aussi d'une région à l'autre. Donc l'essentiel, me semble-t-il, mais je vous redonne la parole tout de suite, c'est qu'à aucun moment on est soupçonné d'un quelconque manque de transparence. C'est nos pratiques formelles qui sont jugées pas totalement académiques. Bon, je veux bien qu'on les réexamine, mais très sincèrement, ça ne me paraît pas être l'essentiel.
Ensuite, sur les deux rapports techniques, moi, j'ai été interpellé en ce qui concerne le rapport du musée par la manière dont la Chambre régionale des comptes nous alerte sur le déficit présumé que l'on pourrait avoir, puisqu'ils estiment celui-ci à 1 million d'euros par an. Je dirais que là, on est quand même sur des dimensions que je n'avais pas forcément évalué à ce niveau-là. Donc ce qui nous amène, et ce qui nous amènera certainement à être beaucoup plus attentifs, beaucoup plus rigoureux dans le suivi de ce dossier. En ce qui concerne le rapport éducation, là aussi un rapport très technique. Moi, je n'ai pas grand-chose à y dire sur l'évocation des propos de la Chambre régionale des comptes, dans la mesure où un certain nombre d'orientations ne sont pas les nôtres politiquement, par exemple par rapport à la restauration scolaire, où vous avez préféré externaliser. Aujourd'hui, on se rend compte que dans le cadre du développement durable, il faut veiller à ce que les emplois puissent retrouver le territoire, le terroir. Il y a des orientations qui concernent le périscolaire, qui de fait vont tomber d'elles-mêmes, donc je ne dis pas passer plus de temps qu'il ne faut. Mais quelque part, derrière ce rapport, et ce n'est pas forcément, effectivement, sa vocation, mais ce qui me dérange, c'est qu'on a un rapport très arithmétique, très technique, et quand même, sur le sujet de l'éducation, ce qui est important, c'est qu'on prépare quand même les citoyens de demain, dans un monde qui sera certainement encore plus difficile que celui d'aujourd'hui, dans un monde où le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui inscrit les gamins dans une concurrence entre eux, dans une compétition entre eux depuis leur plus jeune âge, alors que l'on devrait leur instruire le monde de la solidarité et trouver chacun sa place pour construire le monde de demain. Et cette dimension humaine et politique, dans ce rapport-là, rien.
Alors,
y a
j'ai,
pas
j'ai
un
l'explication,
mot,
hein. Et ça ne quittera pas cette enceinte. Le contrôleur était absolument charmant. C'est un ancien militaire qui était docteur en mathématiques. Donc, je pense que les chiffres l'intéressaient beaucoup. Le sens de l'éducation, peut-être un peu moins. Mais ce n'est pas une critique contre lui. Je pense qu'il a fait son travail. Mais c'est vrai qu'il avait une optique extrêmement mathématique. Il a d'ailleurs essayé de me convaincre que les mathématiques, c'était passionnant. Je déteste ça et j'ai toujours détesté ça. Mais lui, quand il parlait chiffres, on sentait que son œil pétillait, ce qui n'était pas le cas en ce qui me concerne. Donc, il n'est pas étonnant qu'il ait abordé beaucoup la question de l'éducation à travers des chiffres et il nous a demandé je ne sais combien de fois des chiffres, de détailler, etc. Alors qu'à mon sens, la finalité de l'éducation, certes, elle a un coût, il faut le vérifier et il faut le contrôler, mais la finalité, elle est plutôt au niveau des valeurs et des chances qu'on donne aux enfants, plus qu'à une approche comptable. Mais en même temps, c'est peut-être une déformation professionnelle où c'était peut-être la demande de la Cour des comptes qui faisait son analyse au niveau national et lui n'était à ce moment-là que le délégué de la Cour des comptes sur ce point.
Donc je ne souscris ni aux réponses, ni aux questions qui ont été formulées, ni en fait aux réponses qui ont pu être apportées à ce volet du rapport.
D'autres interventions ? Pas d'autres interventions, on n'a pas d'avis à donner là-dessus, hein. C'est juste une information, il n'y a pas de vote.
Juste, on pourrait répondre.
Oui, pardon, Christian, j'ai oublié.
On pourrait simplement répondre aussi sur le chiffre. C'est un peu la même remarque sur les mathématiques. Le chiffre annoncé de déficit du musée d'un million d'euros, c'est à la fois énorme et banal. C'est énorme et banal, car énormément de musées peuvent envisager, surtout à leur création, dans le fonctionnement, un déficit. Nous avions tout à l'heure une réunion, et Benoît pourrait en parler, avec la commission de département. Nous avons abordé ces sujets, et même avec M. de Courson, qui lui aussi manie bien les chiffres, et qui nous a donné son avis, on n'en sera pas là.
Oui, alors, évidemment, les chiffres qui sont donnés, il est dans son rôle quand il alerte là-dessus. On sait très bien qu'en faisant ce musée, on crée un équipement qui sera structurellement déficitaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des efforts pour qu'il le soit le moins possible, à la fois en maîtrisant nos dépenses et en essayant d'optimiser nos recettes. Et si on peut, par du mécénat, par du partenariat sur des expositions provisoires, etc., faire entrer davantage d'argent, si on peut faire en sorte qu'il y ait plus de personnes présentes au musée que ce que nous avions imaginé, évidemment, ça peut être intéressant également pour les finances du musée. Mais là aussi, quand on fait un musée, on le fait avant tout pour exposer une histoire, exposer de la matière scientifique, historique, culturelle. Et ça a un coût. On le sait, il n'y a pas un musée qui, dans une ville de province, est rentable. En même temps, ça va contribuer à la fréquentation de nos équipements touristiques, ça fait venir du monde, ça véhicule une culture tout à fait particulière qui est celle de la vigne et du vin ou de l'archéologie qui est propre à notre territoire et quelque part ça contribue au rayonnement et à la notoriété de notre ville. Donc voilà, c'est difficile d'en dire plus à ce stade, on sera vigilant et de toute façon vous verrez quand on arrivera sur la fin de la construction du musée, on pourra vous présenter un budget prévisionnel du fonctionnement de ce musée puisqu'aujourd'hui c'est évidemment pas révélateur. En expliquant bien pourquoi on doit faire des recrutements pour que ce musée fonctionne, pour qu'il y ait de l'animation dans ce musée, pour qu'on puisse accueillir des publics différents. Je pense au public scolaire, au public des jeunes, au public des familles, qu'il y ait un travail de documentation à faire en continu dans ce musée pour qu'il continue d'engranger des œuvres nouvelles, de voir ces collections évoluer, être présentées sous des formes différentes et voir ces contenus audiovisuels régulièrement renouvelés. Donc tout ça explique les investissements et le fonctionnement d'un musée comme le nôtre. Voilà, nous en avons... Oui, allez-y, Monsieur Richard.
J'ai rien à rajouter par rapport au rapport. C'est juste une remarque, compte tenu, je dirais, de la matière et d'un rapport qui fait 98 pages, hein, je crois. On l'a reçu il y a 3 jours ou 4 jours. Et avec des tablettes qui buguent régulièrement, c'est un problème. C'est un problème parce que on veut, pour travailler sérieusement, bon, moi j'ai eu la possibilité de lire une fois rapidement. C'est tout à l'heure l'employé qui a. J'ai essayé de débugger, y compris en appelant, peu importe, hein, s'il n'avait pas fait la manip. Ceci étant, depuis deux jours, j'avais plus de ni l'ordre du jour, ni les délibres, et bien évidemment, ni le truc. Ça, c'est un petit peu ennuyeux, d'autant que ce rapport, je crois qu'il est en votre possession depuis la mi-juillet, un truc comme ça.
Il est arrivé dans le courant de l'été, oui, effectivement.
Voilà, c'est ce qui est indiqué dans le. Voilà.
Bien, je vous libère, l'ordre du jour est épuisé. Le prochain conseil, c'est 15 octobre. Ça vient. Pardon ? Oui, le sujet principal du 15 octobre, ce sera le PLU, puisqu'on doit délibérer sur le PLU. Il est possible qu'on ait d'autres rapports, mais ce sera un rapport principalement consacré au PLU. Donc c'est pas là qu'on fera la présentation. On fera un conseil spécifique pour le musée. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? C'était pour la qualité de l'air. Je pense que ce sera peut-être un peu court pour que la personne d'Atmo puisse venir. Ce sera sûrement au conseil suivant.